Farming Simulator 22.
Cultivez les bons moments avec Farming Simulator 22.
Bonjour à tous, c'est Marlon, plus connu sous le nom d'Energy 5, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cultiver les bons moments, le podcast dédié à Farming Simulator et à l'agriculture française. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des circuits courts et des AMAP en France. Et pour nous en parler, j'ai l'honneur d'avoir Stéphanie du panier des Trois Pierres. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Energy 5.
Pouvez-vous nous présenter votre travail et le panier des Trois Pierres?
Alors, c'est une petite ferme en Seine-Maritime. On est installé avec mon mari depuis 2014. On était tous les deux enfants d'agriculteurs, mais on n'avait pas réussi à s'installer au début. Et donc, on a fait d'autres métiers. Et à un moment donné, quand on a trouvé notre ferme, on a décidé de faire du maraîchage parce que c'est une petite surface.
Et quand vous nous dites que c'est une petite surface, c'est à peu près quelle superficie?
Alors, on a réellement 17 hectares à exploiter. Alors, en maraîchage, c'est déjà beaucoup. Pour l'instant, au bout de quelques années, on est arrivé à peu près à exploiter 10 hectares en maraîchage avec un verger et des petits fruits rouges. Et le restant, on fait une alternance avec un voisin qui nous fait une jachère quelque part pour faire une rotation des cultures.
D'accord, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous cultivez justement et comment vous l'exploitez cette surface, ces 17 hectares?
Alors en maraîchage, il y a principalement tous les légumes de conservation, c'est-à-dire les pommes de terre, les carottes, les poireaux, les choux, les courges, les oignons.
Ok.
Et puis on a aussi des légumes à l'abri sous tunnel pour avoir entre autres l'été des légumes d'été, mais qui chez nous en Normandie auraient un petit peu de mal à ne pas être attaqués par les champignons.
D'accord.
Et pendant l'hiver, ça nous fait aussi de l'abri pour avoir plus de légumes verdures, de feuilles, de salades et compagnie.
Ah oui, sur ces 17 hectares, vous arrivez quand même à avoir une grande variété de cultures. Alors, sur Farming Simulator 22, nous avons également des serres et donc du maraîchage. Nous pouvons faire des tomates, des laitues, ainsi que des fraises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Et d'ailleurs, je crois que vous appelez ça plutôt des tunnels.
Alors, les serres que... Enfin, vous appelez ça des serres. Nous, on appelle ça des tunnels parce qu'ils sont en plastique, sur des arceaux métalliques. Ça nous permet d'avoir les légumes d'été un petit peu plus tôt, quand même, et surtout de les avoir protégés des champignons, principalement le mildiou hein, chez nous qui est compliqué avec l'humidité, et puis en même temps aussi de pouvoir mieux surveiller les petits ravageurs et compagnie.
Ok.
Pour l'hiver, c'est un abri aussi pour tous les légumes feuilles qui autrement auraient un coup de froid avec les gels, et puis on n'aurait pas de salade tout au long de l'hiver.
Alors oui, vous nous parliez justement de l'humidité. Est-ce qu'il y a des particularités d'avoir son exploitation en Haute-Normandie, notamment climatique?
Alors nous, on est à peu près à 25 km de la mer, donc c'est quand même assez changeant comme temps. On peut avoir du soleil et de la pluie. Donc comme la Normandie a sa réputation, c'est assez humide.
Ah oui, je vois.
Ouais, on a une alternance de différents climats. Un printemps plutôt un peu humide, un été assez ensoleillé malgré tout. Et puis un automne bien marqué et un hiver souvent avec quelques gelées.
D'accord, merci pour ces précisions. Alors nous sur Farming Simulator, on va bientôt avoir la possibilité grâce au DLC Précision Farming de mieux connaître nos champs et donc d'y apporter bien moins d'engrais, bien moins de produits chimiques. Qu'est-ce que ça change réellement pour vous d'avoir un mode de production biologique?
Donc nous, on a démarré notre activité au début avec l'idée de faire de l'agriculture biologique. Il nous a fallu nous lancer pendant 2-3 ans. Après, on a demandé le fait que nos terres soient certifiées à l'agriculture biologique. Notre pratique y était déjà, mais il fallait un certain temps à ce que ça soit validé.
Ah oui, je vois.
Et donc depuis qu'on produit comme ça, les contraintes, on va dire que c'est qu'il faut maîtriser le désherbage, surtout en Normandie, parce que l'humidité ne nous aide pas. Ensuite, il faut favoriser les écosystèmes. Donc, on a dès le départ implanté toute une haie autour de notre parcelle pour avoir plus de... une faune beaucoup plus importante pour pouvoir nous aider à combattre certaines maladies. En même temps, ça nous permettait aussi de nous abriter du vent. Tout ça, c'est retour à notre climat qui est très venteux aussi. Et aussi un peu des dérives des agriculteurs voisins. Donc voilà. On a besoin d'avoir une rotation dans les cultures très importante, parce que si on revient trop souvent au même endroit, bah c'est complètement à l'inverse de l'agriculture biologique. Il faut que les maladies de chaque type de plante ne restent pas installées toujours au même endroit. Et en faisant une rotation, ça se passe beaucoup mieux.
Ah oui, ça fait quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Et pour revenir sur le désherbage, sur Farming Simulator, on a la possibilité soit d'utiliser de l'herbicide, donc évidemment un côté un petit peu chimique, ou alors de passer avec différentes herses pour retirer les différentes mauvaises herbes qu'on peut retrouver sur nos champs. Et donc, comment ça se passe pour vous réellement, le désherbage ?
Alors, ça dépend des cultures, mais c'est vrai qu'au départ, au printemps, on essaye de préparer la terre en amont. On la prépare, elle se ressalit. Une fois qu'elle s'est légèrement ressalie, on la retravaille. Ça veut dire qu'on fait quelque part un faux semis. Et quand c'est possible, on essaye d'en faire plusieurs. Le fait de faire des faux semis comme ça, ça détruit déjà une partie des mauvaises herbes. Donc après, on peut vraiment semer le légume qui nous intéresse.
Ok.
Et comme ça, quand le légume lui-même va commencer à lever, il ne sera pas concurrencé de trop par les mauvaises herbes. Ça, c'est la première étape. Mais ça n'empêche pas que quand le légume commence à pousser, il y a toujours quelques mauvaises herbes qui arrivent. Donc selon les cultures, quand c'est en extérieur, en plein champ, on arrive maintenant à avoir des machines qui font un peu du binage entre les rangs, et on n'a plus qu'à désherber sur le rang. Et puis quand c'est dans les tunnels, c'est un désherbage totalement manuel.
Ah oui, mais du coup le désherbage à la main, ça doit demander énormément de temps. Est-ce qu'on peut dire du coup que le bio, ça demande quand même plus de travail ?
Alors oui, c'est vrai qu'en agriculture biologique, il faut être beaucoup de mains, on va dire. Si on devait faire ça qu'avec des machines, ça serait beaucoup plus simple, mais ce n'est pas encore adapté. Et donc nous, dans notre activité, on travaille avec mon mari et moi et quatre salariés, et ça permet de, quand on a un chantier vraiment de désherbage, c'est beaucoup moins décourageant que d'être tout seul sur le rang qui est trop long.
Ah oui, non, mais ça c'est sûr, il vaut mieux travailler à plusieurs, comme sur Farming Simulator. Et d'ailleurs, rien de plus simple, car sur Farming Simulator 22, nous pouvons rejoindre nos amis sur Xbox, PlayStation et PC sur un seul et même serveur, jouer jusqu'à 16 joueurs sur PC, et évidemment créer des fermes à plusieurs en customisant son personnage, ses véhicules, etc. Donc je pense qu'on peut dire que, clairement, on est plus fort à plusieurs sur une exploitation.
Ah bah oui, tout à fait. Si on était tout seul, ou mon mari et moi, ça serait très fatigant, très difficile, parce que déjà on ne pourrait pas faire autant de production, ça c'est sûr, mais en plus toutes les tâches ingrates qui sont des fois, comme le nom l'indique, fatigantes, là on a moyen de les faire par corvée tous ensemble, et c'est beaucoup plus, ça passe mieux.
Ah oui, je vois.
Puis ensuite, après, on échange, on est tous à avoir nos ressentis sur telle ou telle difficulté de la météo, ou des produits qui se conservent moins bien, ou des choses comme ça, et donc c'est un échange, et c'est intéressant.
Alors, merci Stéphanie pour ces précisions. Est-ce que maintenant vous pouvez nous donner la définition de ce qu'est une AMAP ?
Alors une AMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. En général, c'est une association qui au départ est à l'initiative de consommateurs qui ont envie d'une part manger une production saine, d'autre part d'être en lien avec la personne qui fait pousser, le plus souvent ce sont les légumes quand même, et qui s'organise pour qu'il y ait des distributions régulières, en général une fois par semaine, et du coup c'est un petit peu à la charge des AMAPiens.
Et est-ce que vous pouvez me dire ce que cette association finalement apporte aux consommateurs ?
Alors pour un consommateur, c'est l'avantage premier, c'est d'avoir des produits ultra frais, puisque du coup ils vont être récoltés pour la fabrication des paniers, et si la livraison a lieu un mardi, ça a été récolté au plus tôt le lundi.
Okay.
Ensuite, pour eux, c'est aussi une variété de légumes qu'ils n'imagineraient peut-être pas. Il faut imaginer que ce sont toujours des légumes de saison, donc il y a des découvertes. Il peut y avoir aussi des déceptions, parce que certains voudraient manger des courgettes toute l'année, mais c'est pas toujours possible.
Et du coup, là, on peut dire qu'on est vraiment sur ce qu'on appelle un circuit court.
Alors, oui, normalement, une AMAP, c'est dans un rayon de, je dirais, 20-30 km pour que ce soit sérieux, hein, parce que l'organisation de l'AMAP, ça veut dire aussi que des fois, il doit y avoir une sorte de partenariat entre les consommateurs et le producteur. Donc, du coup... Il peut y avoir des temps d'échange et d'entraide où certains amapiens viennent aider pour une corvée, pour quelque chose, pour aider le producteur.
Oui, on parlait des avantages pour le consommateur, mais quels sont ces avantages pour le producteur de faire partie d'une AMAP ?
Pour nous, en tant que producteur, ce qui est super intéressant, c'est qu'on sait un petit peu d'avance combien on doit produire pour telle AMAP, puisque normalement, une AMAP, les consommateurs s'engagent pour une année, éventuellement pour 6 mois, mais en général pour une année. Donc ça veut dire que pendant une année, on sait qu'on doit livrer telle quantité de paniers, petits ou grands, selon l'AMAP.
D'accord.
Ça, c'est le premier intérêt. Après, le fait d'être en échange avec les consommateurs, on évolue, on voit ce qui leur plaît pas, ce qu'ils aimeraient avoir, et on explique des fois quelques interrogations.
Et justement, moi aussi, j'en ai une d'interrogation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre AMAP ?
Alors nous, c'est une AMAP qui a la particularité d'avoir existé avant qu'on la rejoigne. Donc elle avait certaines habitudes. Et maintenant, quand ils ont fait appel à nous, il y a eu 2 producteurs qui se sont mobilisés en même temps. Donc ce qui fait qu'on partage la AMAP. Nous, on n'y va pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. Et l'autre maraîcher fait les semaines intermédiaires. Et du coup, ce qui est très bien, c'est que ça fait une variété dans les paniers pour les consommateurs.
Et cette AMAP, comment s'appelle-t-elle ?
Alors, elle s'appelle l'AMAP Coccinelle, elle est sur IFTO. C'est une AMAP assez ancienne, hein. On a à peu près en moyenne une bonne dizaine de grands paniers et une vingtaine de petits paniers. Les grands paniers, c'est pour des familles avec 2-3 enfants, et les petits paniers, c'est pour un couple ou un couple avec un enfant.
Et cette AMAP, c'est votre unique ou principal canal de distribution ?
Alors non, la AMAP n'est pas notre canal de distribution principal, c'est un canal important, mais on a d'abord un magasin à la ferme avec une vente directe à la ferme de nos produits, donc nos légumes et nos fruits, ainsi que quelques autres produits d'autres producteurs du secteur.
D'accord.
Et après, on fournit aussi un magasin de producteurs sur Le Havre, donc là on est obligé d'aller livrer 2 à 3 fois la semaine pour avoir toujours des légumes frais.
Okay.
Et puis, quand on a des excédents et même un petit peu en dehors, on fournit quelques cantines scolaires et des demi-grossistes qui eux-mêmes redistribuent après à des restaurateurs.
Ah oui, donc en fait, il y a les AMAP, mais il y a également beaucoup de canaux de distribution. Sur Farming Simulator 22, on a eu l'arrivée du cycle saisonnier, ce qui oblige un petit peu le joueur à s'adapter à un calendrier, donc à semer ses cultures à une certaine période selon les cultures, et à les récolter à d'autres. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu l'impact qu'a la consommation de fruits hors saison ?
Alors, l'impact chez nous, on le voit pas trop, parce que nos clients au magasin, entre autres, ils sont habitués. Par contre, on voit très rapidement quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir, parce qu'on nous demande des bananes, on nous demande des kiwis, on nous demande des choses qu'on ne peut pas produire. Je ne parle pas des légumes.
Et donc justement, à contrario, quel est l'intérêt de consommer les fruits pendant leur saison ?
Bah, c'est de manger des légumes qui sont au top de leur maturité. Que les légumes de saison, c'est des légumes qui sont adaptés à la période de l'année. Entre autres, l'hiver, il nous faut un peu plus de calories et de vitamines. Donc on trouve ça dans les courges, dans les poireaux, dans les carottes, dans les choux. Les choux sont pleins de vitamines et on l'oublie souvent. Et à l'inverse, l'été, on a envie de manger plus léger, donc ce sont des légumes beaucoup plus gorgés d'eau, comme les concombres, les courgettes, les tomates et les poivrons. Mais ça n'a pas trop de sens de manger complètement décalé.
En effet, oui, merci pour ces réponses. Et donc là, on pourrait se demander légitimement quels sont les fruits et légumes qu'on peut consommer actuellement.
Une bonne potée de choux, ça, c'est toujours efficace, ça réchauffe bien avec un mélange d'oignons, carottes et tout ça. On peut se faire des très bons potages à base de courge, à base de poireaux.
Ok.
On peut faire des mélanges en purée, associer de la pomme de terre avec du panais, de la pomme de terre avec du topinambour, et comme ça, ces légumes qui sont un petit peu forts en goût passent très bien pour toute la famille.
Oh, très bien.
Il ne faut pas oublier d'associer les légumes frais, avec les légumes secs, et comme ça, on a des plats qui sont super constituants.
D'accord pour ce qui est des légumes et pour les fruits.
Alors nous, au Panier des Trois Pierres, l'hiver, ça se limite, surtout là en janvier, aux pommes et aux poires.
Ok.
Et après, il faut attendre le printemps pour retrouver, enfin le printemps bien installé, c'est-à-dire le mois de juin, pour retrouver les fraises, les framboises, cassis, groseilles, la rhubarbe. Mais voilà, l'hiver est un petit peu long au niveau des fruits.
Et oui, et justement, à cette période, c'est peut-être aussi l'occasion de manger des produits transformés à base de ces fruits ou de ces légumes, comme sur Farming Simulator 22, où nous pouvons désormais transformer nos produits avec l'arrivée des chaînes de production. Alors, en quoi ça consiste ? C'est assez simple. Par exemple, si vous avez du blé, vous pouvez le transformer en farine. Alors, soit vous le vendez directement en blé, mais si vous le transformez en farine, ça rapportera forcément un petit peu plus d'argent, car vous avez pris le temps de le transformer. Et en plus, ça permet de vous occuper pendant l'hiver. Donc comme ça, vous pouvez récolter en été et transformer en hiver votre blé en farine, et puis votre farine en pain. Est-ce que vous, Stéphanie, vous envisagez de transformer vos matières premières ?
Alors oui, c'est bien le souci des fois d'être producteur, c'est qu'il peut y avoir un petit peu surproduction, et entre autres pour les fruits rouges, bah, c'est pas envisageable, c'est tellement des merveilles qu'il faut pas les perdre. Alors moi, je récolte pendant toute la saison, et j'en mets un peu au congélateur tout au long, et après, pendant toute l'année, je peux faire des confitures toutes les semaines avec des fruits que je décongèle au fur et à mesure.
D'accord.
On a aussi le souci avec les légumes, hein, entre autres la tomate, hein, qu'on nous réclame toute l'année. Elle arrive principalement chez nous au mois d'août, quand tout le monde est en vacances. Donc, il y a vraiment surproduction à ce moment-là. Donc, on essaye de ne pas tout perdre, d'en transformer soit en soupe, soit en coulis de tomate. Et puis, la dernière transformation, c'est aussi les pommes, parce qu'il y a toujours des pommes qui sont trop petites, mal calibrées, légèrement abîmées. Donc là, on peut faire des jus de pommes. On mélange jus de pommes avec framboise, on mélange jus de pommes avec carottes et betteraves. Et pour l'instant, c'est parce que j'ai trouvé que ce créneau-là, hein, c'est quelqu'un qui me fait la transformation, mais si plus tard j'arrive à trouver quelqu'un qui me fait des compotes, ça sera parfait.
Ah bah, on vous le souhaite de le trouver. En tout cas, tout ça donne vraiment envie. Est-ce qu'on peut en voir un petit peu plus ?
Venez avec moi dans le magasin, je vais vous montrer ce qu'on fait en produits transformés.
Ok.
Ma principale transformation, c'est les confitures. Hein. Je fais ça tout au long de l'année, ça part très vite. Donc j'alterne, je fais des mélanges à la base de fraises, fraises rhubarbe, fraises cassis ou un mélange des quatre fruits rouges. Je fais des gelées aussi de framboises, de cassis, de groseilles. Je fais aussi la confiture de rhubarbe. Et il y a plein d'associations possibles encore, mais voilà... Je me limite déjà pour ces petites recettes-là.
D'accord.
Et puis après, on a nos jus de pommes qu'on fait faire par presse aux fruits. Et du coup, on y intègre aussi, quand on peut, un peu de framboise pour certains. Ou alors un autre type avec des carottes et des betteraves. Ça fait un jus original, mais les gens aiment beaucoup. Et pour finir, j'ai trouvé aussi une conserverie qui peut me faire des coulis de tomates et des soupes, soit tomates, soit courges, soit poireaux. Et c'est très apprécié en hiver.
Bah oui, là, tout a l'air vraiment très bon. D'ailleurs, là, juste, je vois d'autres produits. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres producteurs de la région ?
Oui, au fur et à mesure des années, on a développé différents partenariats avec les producteurs du secteur, donc en crèmerie, en fromagerie, un peu aussi avec des glaces, des œufs, de la farine... des cidres et des bières, parce que tout le monde aux alentours fait de la transformation aussi.
Alors, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Merci infiniment, Stéphanie, d'avoir répondu à nos questions.
Au revoir, Énergie 5.
Et quant à nous, nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode de Cultiver les bons moments. À bientôt.
Farming Simulator 22. Semer aujourd'hui, récolter demain.